protestants au pluriel, des convictions qui dialoguent, un engagement qui résonne.
Bonjour à tous, protestants au pluriel, Yolande au micro pour vous faire découvrir la richesse du protestantisme français. En effet, nous allons à la rencontre des églises et membres de la Fédération protestante de France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le mouvement protestant de la Fondation John Bost, représenté par son directeur général, Guillaume de Clermont. Bonjour Guillaume de Clermont.
Bonjour.
On va commencer par être très simple sur la fondation que vous présidez. Est-ce que vous avez un slogan qui définit bien votre mouvement?
Oui, alors c'est un slogan qui avait été créé par le fondateur Jean-Antoine Bost, dit John Bost, « Accueillir ce que tous repoussent ».« Accueillir ce que tous repoussent », et c'est un slogan qui reste aujourd'hui extrêmement d'actualité au sein de la fondation John Bost. Donc, voilà.
Alors, quels sont ceux qui sont repoussés?
Alors, voilà, la fondation John Bost accueille depuis pratiquement 180 ans des personnes en situation de handicap, avec, on va dire, quatre types de personnes. D'abord, des personnes âgées, et particulièrement des personnes en situation de handicap âgées. Des personnes qui souffrent de troubles psychiques, qui sont hospitalisées, en fait, au sein de la Fondation John Bost, dans des parcours de soins psychiatriques. Des personnes qui souffrent de troubles du neurodéveloppement, avec tous les troubles du spectre de l'autisme. Et puis, des personnes qui souffrent de polyhandicap, souvent des personnes qui ont une maladie de la petite enfance ou bien une maladie avant leur naissance qui a altéré très fortement leur système neurologique et qui sont très, très, très dépendantes.
Vous avez donné un slogan, maintenant un verset biblique.
Alors, si j'avais à prendre un verset biblique, il y en a un qui m'a marqué il y a très longtemps quand j'étais pasteur à Djibouti en coopération et qui, je trouve, s'applique bien à la Fondation John Bost. C'est ce verset qui dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous savez, c'est un verset dans l'évangile de Matthieu. Je trouve que ça s'applique assez bien à la Fondation John Bost parce que on a des lieux paisibles, des lieux où le cadre de vie est propice justement aux soins, à l'accompagnement, un endroit de repos, de sérénité, de calme où on peut, nonobstant sa maladie, vivre le mieux possible. Donc j'aime bien ce verset pour la Fondation John Bost.
Et quel est votre rôle, Guillaume de Clermont?
Alors, j'en suis le directeur général. C'est-à-dire que, avec d'autres, évidemment, avec la direction générale et les services et les professionnels de la Fondation John Bost, mon rôle, c'est de mettre en œuvre les axes stratégiques qui nous sont donnés par le conseil d'administration, c'est-à-dire accompagner le développement de la Fondation John Bost et tenter d'être le plus fidèle possible à sa vocation. Voilà, donc la Fondation... elle se définit comme un cadre de soins, un cadre d'accompagnement et un cadre de vie, donc, et un cadre de sens, lieu de soins, lieu de vie, lieu de sens. Et mon rôle, c'est de veiller à ce qu'elle le reste au gré des évolutions qu'on a dans la société sur la prise en charge du handicap, sur les financements. Voilà, il faut que je puisse garder le cap et mettre en œuvre les plans stratégiques qui se succèdent, en gros, tous les 5-6 ans et qui sont... nous sont confiés par le conseil d'administration.
Vous avez des chiffres de gens accueillis depuis...
Oui, alors, la Fondation John Bost, aujourd'hui, c'est 42 établissements et services qui sont répartis sur 4 régions, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Île-de-France et la Normandie. Donc, 42 établissements et services, 2000 personnes en situation de handicap, une majorité qui sont des majeurs, mais nous avons entre 250 et 300 enfants en Île-de-France, et puis 2300 professionnels au service de la Fondation John Bost, pour donner quelques ordres de grandeur, ce qui montre le niveau de dépendance. Vous voyez, 2300 professionnels pour 2000 personnes accueillies, on a beaucoup de personnes en grande dépendance et qui nécessitent un taux d'encadrement assez important.
Et vous avez une autre singularité dans cette fondation, autre que de s'occuper effectivement des personnes en situation de handicap?
Peut-être j'en citerai deux. Une première qui est née de la volonté du fondateur, c'est que on essaye d'avoir des lieux d'accueil sans mur ni clôture, comme disait John Bost, c'est-à-dire des lieux très ouverts. des lieux où les personnes peuvent aller et venir et où des personnes de l'extérieur peuvent venir visiter et réciproquement des personnes qui sont accueillies dans l'établissement peuvent sortir. Donc, on essaye de vivre l'inclusion comme ça, avec des personnes, je vous le disais, qui sont très, très dépendantes, donc qui ne peuvent pas toujours aller librement, mais on crée du contact avec l'extérieur, on essaye de ne pas être dans des lieux fermés. Donc ça, c'est sans doute une caractéristique de la Fondation John Boss. Une deuxième, qui est évidemment très importante, c'est que c'est une fondation qui est d'origine protestante, créée par un pasteur et qui garde aujourd'hui un ancrage très fort avec un projet spirituel qui fait partie de l'accompagnement. Donc il y a le directeur général que je suis est un pasteur, mais nous avons quatre autres pasteurs qui sont là pour accompagner les résidents, les professionnels et les familles et maintenir donc ce projet spirituel très vivant au sein de la Fondation de l'Ordre. C'est sans doute une des caractéristiques de la Fondation.
Oui, donc on voit l'identité protestante pour les responsables. Il y a des militants autour, il y a des bénévoles, ou alors est-ce que vous êtes juste des professionnels?
Alors, on a un réseau de soutien, des amis de la Fondation John Boss, on a des bénévoles. On est en train, ça fait partie de nos axes stratégiques, c'est-à-dire qu'on est en train de lancer, depuis près d'un an maintenant, une dynamique d'engagement pour des bénévoles, pour justement créer autour de nos établissements des communautés de bénévoles. On a aujourd'hui une centaine, entre 100 et 200 bénévoles qui sont présents dans certains événements, dans certains moments de la vie de la Fondation. Mais on a besoin d'étoffer ce nombre de bénévoles, à la fois pour avoir du soutien et puis aussi pour avoir des personnes relais qui peuvent faire connaître la Fondation John Boss à l'extérieur, parler du handicap, parler des professionnels. Ça fait partie du rayonnement de la Fondation John Boss. Donc c'est un de nos axes stratégiques et on a une personne qui travaille à plein temps sur le développement de ce bénévolat.
Et ce bénévolat, il est protestant, il est non confessionnel,
non. Non, il n'est pas spécifiquement protestant, il est ouvert à tous. L'idée, c'est vraiment de venir compléter le travail des professionnels pour leur permettre de faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire sans bénévoles, mais c'est vraiment ouvert à tous. Alors, on réfléchit quand même à donner du sens à cet engagement et à faire en sorte que sur les fondements, les valeurs de la Fondation, ces bénévoles se retrouvent. Mais il n'y a pas besoin d'être protestant ou d'être engagé dans une église pour être bénévole à la Fondation John Boss, loin de là.
Et vos bénéficiaires, je suppose que eux, il n'y a pas de problème de critères religieux.
Non, aucun, évidemment. La Fondation John Boss est entièrement alignée sur les règles de la laïcité. D'abord parce que fondamentalement, le projet de John Boss, c'était d'accueillir ce que toi pousse en distinction. Il n'y a pas de critères religieux. Ensuite, parce que notre activité est très administrée. On utilise des fonds publics qui nous sont donnés pour cette activité. Et donc, on est soumis aux règles de la laïcité qui est l'accueil inconditionnel, en fait. Donc, il y a quelques familles qui nous confient des personnes en situation de handicap et qui sont des familles protestantes, mais c'est une minorité, en fait. Hein.
Donc, cet ancrage protestant de John Boss, comment vous le vivez? Comment vous vivez l'accompagnement spirituel, concrètement, au sein de vos établissements?
Alors, il y a plusieurs manières de répondre. D'abord, les pasteurs proposent des animations qui sont très très identifiées pour les résidents qui le souhaitent, hein, des temps d'animation biblique, des temps de culte, ou bien des sorties, des activités, on va dire, de type cultuel ou en tout cas en lien avec la spiritualité. Il y a une forte présence des pasteurs, une disponibilité des pasteurs aussi pour les temps de revoir. C'est comme ça qu'on appelle ça, les moments où des personnes sont décédées, d'ailleurs croyantes ou pas croyantes, mais quand les professionnels souhaitent un petit temps d'accompagnement à ce moment-là pour poser des mots sur la douleur et l'espérance, les pasteurs sont présents et donc viennent témoigner de l'espérance dans les moments un peu difficiles. Les pasteurs sont aussi ceux qui veillent à ce que n'importe qui voudrait accéder à un culte puisse être accompagné. Si on a une personne d'origine catholique ou juive ou musulmane qui souhaite pouvoir aller dans une mosquée, une synagogue ou une église, les pasteurs sont garants avec les professionnels que ces personnes puissent accéder à leur culte. Ils sont engagés aussi, et la spiritualité se vit aussi en lien avec les espaces éthiques. On mêle à la fois les réflexions philosophiques, quelquefois scientifiques, mais aussi dans lequel la spiritualité peut venir nourrir la réflexion éthique. Et il y a évidemment toute la partie, tout le lien avec l'extérieur, c'est-à-dire les interactions avec les églises locales. Quand on a un établissement et qu'il y a une église protestante à proximité, les pasteurs facilitent le lien avec l'église et tentent de faire travailler sur l'inclusion. C'est ça la spiritualité à la Fondation John Boss, c'est la manière d'accompagner la Fondation. Et puis à La Force, il faut quand même le rappeler, dans le petit village de La Force, qui est le lieu historique de la Fondation, il y a un temple et il y a un culte chaque dimanche dans le temple de la Fondation, où les deux pasteurs qui sont en Dordogne président le culte avec des résidents, des professionnels et des amis qui viennent.
Alors on a vu, on voit ce que vous apportez aux bénéficiaires, mais qu'est-ce que vous apportez à la société ?
Vous voulez dire sur le plan spirituel ou sur le plan du...
Non, sur le plan du message, sur le plan de
alors,
ce que vous apportez.
L'ambition de la Fondation, c'est d'essayer de faire évoluer, disons-le comme ça, le regard sur le handicap. De donner à voir le travail qu'on fait dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, permettre à des personnes qui ont des préjugés ou qui ont peur du handicap de dépasser ces préjugés, de côtoyer ou d'être en lien avec des personnes en situation de handicap, comprendre ce qu'elles sont. Et puis, on essaye aussi, tant bien que peu, de faire évoluer les manières de prendre en charge, tout ce qui peut faciliter l'inclusion d'une personne en situation de handicap dans la société. Donc, on est très attentif au plaidoyer, à toutes les questions qui tournent autour du financement, des dispositifs qu'on aménage pour des personnes en situation de handicap. Et la Fondation, elle est particulièrement attendue sur des handicaps très complexes, donc des personnes qui ont des niveaux de prise en charge très élevés, qui ne sont pas forcément éligibles pour aller vivre en autonomie en ville et qui doivent avoir un lieu, justement, tout à l'heure je parlais de ce verset, hein, « Venez à moi, vous êtes fatigués et chargés », un lieu justement où elles peuvent vivre telles qu'elles sont, dans des lieux calmes et paisibles et sereins, avec leur handicap, en étant accompagnées le mieux possible. Voilà, résister à l'idée qu'il faudrait que tout le monde soit immédiatement sorti des institutions et mis en ville dans des appartements. Voilà. Ce sera pas possible et la Fondation John Boss en a une longue expérience puisqu'elle a des handicaps très complexes.
Vous avez parlé de plaidoyer. Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est ?
Bah, par exemple, lorsque on a le sentiment que dans les dispositifs réglementaires, il y a des choses qui ne sont pas adaptées à ce que nous vivons sur le terrain, nous pourrons soit nous-mêmes porter un plaidoyer, une demande au législateur, à la force publique, ou alors nous associer à d'autres pour le faire. Par exemple, j'ai pas le souvenir de plaidoyer récent, mais par exemple, je prends un sujet qui nous interroge aujourd'hui. Lorsque vous êtes en situation de handicap et que vous touchez une allocation handicapée, si vous avez la possibilité de travailler, dès lors que vous allez commencer à travailler et percevoir un salaire, ça va annuler tout de suite votre allocation d'handicap. Ben ça, c'est une vraie question aujourd'hui parce que compte tenu des limitations dans le travail, on a des postes qui sont adaptés avec quelquefois peu d'heures de travail et donc le salaire ne vient pas compenser la suppression d'une allocation
handicapée, par exemple.
Ils perdent tout.
Même si le salaire est voilà, très inférieur.
Voilà. Ça, typiquement, c'est des sujets sur lesquels la Fondation, avec d'autres, peut militer en disant « mais là, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait ». Parce que ça incite plutôt les gens à ne pas aller travailler, en fait. Vous voyez, alors
ouais.
Je vous donne un exemple, parce que c'est un sujet qu'aujourd'hui, on connaît, sur lequel on aimerait faire bouger les choses, mais il y en aurait d'autres. Hein. Voilà, c'est ça le plaidoyer, en fait. Et c'est le rôle de la Fondation, soit de faire remonter des sujets, soit de s'associer à d'autres quand on a des sujets sur lesquels on a envie de nous engager, quoi.
Et alors, vos relations avec les pouvoirs publics, puisque quand vous n'êtes pas d'accord, vous le faites savoir, vous faites ces plaidoyers. Comment ça se passe ?
Je vais dire globalement, ça se passe bien, parce qu'on accomplit une mission pour laquelle on est soutenu et encouragé par les pouvoirs publics. Il peut nous arriver d'avoir des frictions ou des désaccords. C'est particulièrement sensible aujourd'hui sur les modes de financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, compte tenu des comptes publics de la France, on voit bien que les financements se tendent. Et nous, on a le sentiment régulièrement de ne pas être soutenu suffisamment financièrement. Alors, ça peut créer des tensions, mais c'est le jeu. Je dirais les décideurs politiques et nos interlocuteurs dans les administrations savent très bien qu'il peut y avoir des moments un peu tendus. Ce qu'il faut, c'est trouver le juste milieu pour pas se fâcher. Il y a quand même, je le redis, hein, une forme de soutien de nos interlocuteurs, que ce soit les agences régionales de santé, les départements, parce que on accomplit un travail qui est utile et dont ils ont besoin, en fait. Ils ont besoin de nous, en fait, pour accomplir une mission qui est d'utilité publique. Mais il peut y avoir quelquefois, oui, des désaccords, des frictions. Bah, mon rôle, c'est de faire en sorte on puisse à la fois avoir un temps éventuellement d'échange qui peut être un peu tendu, puis ensuite trouver des solutions derrière. Voilà, faut pas se fâcher.
Et comment, je voudrais revenir à vos bénéficiaires, comment vous arrivez à gérer un public qui peut être extrêmement divers, avec des handicaps qui ne sont pas les mêmes, des situations compliquées, et puis qui certainement culturellement et spirituellement sont aussi extrêmement différents. Vous accumulez toutes les,
ouais.
Toutes les problématiques.
Je dirais, c'est tout le professionnalisme des personnes qui travaillent à la Fondation John Boss qui permet de d'accompagner cette diversité. Alors, on a quand même, en fonction des pathologies, du type de handicap, des regroupements. Il y a des parcours qui sont un peu différents en fonction du handicap, du niveau de dépendance. Par exemple, les personnes qui sont en situation de polyhandicap ne peuvent pas être dans un foyer de vie avec des personnes qui sont entièrement indépendantes pour leur vie, pour leur geste de vie quotidienne et qui sont beaucoup plus autonomes. Il y a des moments où il faut quand même avoir des parcours un peu séparés. Mais la diversité, elle est là, et c'est le professionnalisme des personnes qui travaillent à la Fondation qui permet de l'accompagner. Et puis, une autre réalité qui est importante, on a plein de métiers, en fait, ensemble. On a des collectifs dans lesquels on a du soin, de l'accompagnement, et le regard croisé de ces professionnels qui sont très variés, qui sont très différents, permettent aussi d'accompagner la diversité. On a un fondement, un repère auquel on est très attaché à la Fondation, c'est passer le relais. On dit à nos professionnels, il faut savoir passer le relais. Il y a des moments où, par rapport à une situation ou à une personne, un professionnel est en échec, il faut qu'il ait l'humilité de dire, là, je sais pas, je passe le relais à quelqu'un d'autre. Ce passage de relais et la complémentarité des professionnels nous permet justement de gérer des collectifs dans lesquels il peut y avoir une grande diversité et de personnalité et de sensibilité et de handicap.
Et vous arrivez à créer une identité des bénéficiaires, une identité de résident, John Bost?
Oui, en tout cas, j'ai la prétention de penser qu'on y arrive. Il y a quand même une identité de John Bost qui est marquée par d'abord le cadre de vie qu'on offre. On a des établissements, en général, ils sont de bonne qualité, avec des espaces verts autour qui permettent vraiment de travailler à l'extérieur, mais d'avoir des lieux très paisibles. On a des professionnels qu'on accompagne dans leur formation avec des outils qui nous permettent de leur donner une culture commune. On a un outil qui s'appelle GAM, qui est un référentiel de valeurs, de repères qu'on essaie de transmettre à tous pour donner aux personnes une culture commune. Et puis, je pense qu'il y a quand même une identité John Bost. Alors, difficile de la définir, mais une forme de bienveillance, de sérénité. Il y a un ancrage dans l'histoire, donc une histoire qui est quand même solide et longue, et puis un rapport au temps, sans doute, qui permet de donner une identité de John Boss. Je crois qu'elle est perçue de tout.
Et vous n'êtes pas plus proche d'une église spécifique protestante ou d'un courant spécifique?
Non, il me semble qu'on a une diversité dans nos pasteurs qui le manifestent. On a un pasteur qui est d'origine des églises évangéliques libres, on a un pasteur baptiste, on est trois pasteurs de l'église protestante unie, mais dont un qui est d'origine allemande. Donc non, je pense que la Fondation, elle est sur le plan du protestantisme, elle est très ouverte à la diversité. C'est plutôt il faut avoir l'esprit de John Bost et avoir une vraie envie d'accompagner le handicap. C'est plutôt ça qu'on recherche. Donc une adaptabilité du ministère, mais il y a une vraie diversité, je crois, de sensibilité, même si historiquement on pourrait dire la Fondation a toujours été assez adossée au courant luthéro-réformé, mais je crois que voilà, c'est très ouvert.
Et comme dans toutes les associations, dans beaucoup d'associations, est-ce que vous avez réfléchi au problème des violences sexuelles et spirituelles? Est-ce que vous avez mis en place des protocoles?
Alors, d'abord, professionnellement, on est très, très, très attentif à ça. On a des protocoles dès qu'il y a une suspicion d'abus sexuel ou de violence, quelle que soit la sorte. On a des process dans le cadre du droit du travail qui se déclenchent immédiatement pour faire des enquêtes, pour mettre à pied les professionnels, etc. Et puis, du côté des résidents, on a un travail de sensibilisation permanent et on a lancé depuis un an une réflexion interne très, très, je trouve, très profonde sur l'accompagnement de la vie intime, affective et sexuelle, qui vise non seulement à aider des personnes à se handicap sur ce champ-là, mais aussi à désamorcer des situations de violence qui peuvent exister sur le plan sexuel entre des résidents. Voilà, donc je trouve que c'est un sujet qu'on travaille bien et sur lequel les professionnels sont vraiment sensibilisés. Donc voilà, c'est un sujet qu'on voit, qui est au cœur de nos préoccupations.
Et est-ce que vous pouvez nous citer un cas, une histoire de réjouissance, un succès, quelque chose qui vous a mis du baume au cœur, parce que je suppose que c'est pas facile tous les jours et que de temps en temps, ça doit être bien d'avoir une belle histoire.
En fait, il y en a énormément et il y en a tous les jours. Ce qui est peut-être le plus compliqué, c'est de les voir, de savoir saisir les moments où on vit un truc absolument incroyable. La dernière, elle date de dimanche. J'ai croisé, donc on avait notre fête annuelle, la fête annuelle qui est un très gros événement au sein de la Fondation Jeune Boss. J'ai croisé une jeune femme qui est venue se présenter spontanément à moi, qui s'appelle Fabiola et qui m'a expliqué qu'elle avait été pendant très longtemps à la Fondation Jeune Boss, donc accompagnée, et elle vit maintenant en autonomie dans une ville pas très loin de La Fox avec un bébé, et elle travaille. Et elle m'a dit, mais moi, s'il n'y avait pas eu la Fondation Jeune Boss, je ne sais pas ce que je serais devenu aujourd'hui. Et je sais que c'est une femme qui a souffert quand elle était à la Fondation Jeune Boss. Elle a vécu des moments très difficiles avec des professionnels qui n'ont pas su sans doute l'écouter. Mais elle n'est pas du tout aujourd'hui meurtrie de ça, et elle est très reconnaissante de ce qu'elle a vécu à la Fondation, parce que c'est ça qui lui a rendu son autonomie, en fait, et ça, la possibilité pour elle de vivre toute seule. Alors, ça m'a beaucoup touché, parce que je connaissais pas cette jeune femme, et elle est venue me dire spontanément.
Alors, je suppose que vous avez des projets. Quels sont les projets les plus immédiats?
Alors, disons, peut-être un des projets qui va impacter le plus la Fondation Jeune Boss dans les années qui viennent, et dans lequel on est engagé, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, la transformation de l'offre. C'est-à-dire comment, dans les décennies qui viennent, on va prendre en charge l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Je vais vous le dire de manière très simple, et sans doute évidemment un peu caricatural, mais c'est très simple. Aujourd'hui, on a des établissements avec des places, on dit quelquefois des lits. L'État nous donne de l'argent pour financer ces lits, et on remplit ces lits avec des personnes qui cherchent des solutions. Comme il manque beaucoup de solutions, quelquefois on a un public un peu hétérogène dans nos établissements, et nous, on rend des comptes sur la manière dont on utilise ces lits, dont on dépense notre argent pour remplir ces lits et prendre en charge les personnes en situation de handicap. Et on va basculer sur un modèle qui sera très différent, où on va construire des solutions. C'est-à-dire qu'on aura des personnes en situation de handicap dans la petite enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte ou en vieillissant, et à chaque fois, il faudra se réadapter et trouver une solution d'accompagnement au moment où ces personnes en seront et en fonction de leurs besoins. Et donc, la Fondation Jeune Boss, comme dans beaucoup d'établissements, va devoir construire des parcours avec des solutions. Et on parlera plus en place et en lit, mais plutôt en solution. On aura une plateforme d'offres, en fait. Et ça va complètement changer la perspective. Vous voyez, je l'illustre de la manière suivante. En septembre prochain, je suis invité pour fêter le 90e anniversaire de présence à la Fondation Jeune Boss d'une dame. Elle a 96 ou 97 ans. Ça vous donne... elle a fait toute sa vie dans un pavillon à la Fondation Jeune Boss. Ça, ce sera terminé. On aura des personnes qui arriveront dans la petite enfance et qui iront dans des services avec des unités d'enseignement scolaire, maternelle, primaire, et on les accueillera la journée, mais ils seront chez eux le reste du temps. Quand ils arriveront à l'âge adulte, peut-être qu'ils viendront en foyer de vie. Et donc, on les accompagnera pendant quelques années en foyer de vie. Et puis, s'ils sont éligibles pour aller travailler, on les accompagnera aussi pour aller trouver un travail. Puis ensuite, si ces personnes sont suffisamment autonomes, elles iront dans un appartement en autonomie et on les accompagnera dans cet appartement et sur le lieu de travail si nécessaire. S'il y a une crise, une régression, on récupérera à nouveau ces personnes, on leur offrira une place où elles seront de nouveau plus accompagnées en établissement et en collectivité, etc., etc. L'idée, c'est d'avoir un panel d'offres qui permettront à des personnes de faire des parcours de vie et de répondre au plus près de leurs besoins au moment de la vie où elles se situeront et en fonction de leur handicap. C'est d'autant plus important qu'on a des handicaps qui bougent dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des troubles très importants entre 25 et 35 ans, et puis il y a des troubles qui s'apaisent entre 45 et 60 ans, puis il y en a d'autres qui reviennent plus tard. Et donc, c'est ça l'avenir. Et nous, on est en train de travailler pour transformer la Fondation et aller vers ce type d'accompagnement.
Alors, on a vu de belles histoires sur les bénéficiaires. Et qu'est-ce que... Je voudrais une belle histoire sur ceux qui travaillent. Qu'est-ce que ça apporte de travailler à la Fondation John Bost?
Alors, ça apporte deux choses. Je vais l'illustrer ensuite. La première chose, j'ai envie de dire, c'est que les travailleurs qui sont à la Fondation John Bost auprès du handicap, on pourrait dire aussi dans les EHPAD ou en tout cas en proximité de la vulnérabilité, ce sont vraiment, je trouve, des personnes qui sont en première ligne de ce qu'est la vie, quoi. La vie, il y a des choses qui sont belles. C'est d'ailleurs ce qu'on montre aujourd'hui dans notre société. On aime beaucoup d'images, tout ce qui est beau, tout ce qui va bien, etc. Mais il y a quand même, on le sait, 11 millions, 12 millions de personnes qui souffrent de troubles mentaux ou qui sont touchées de près ou de loin par le handicap. Donc, on sait bien que dans la vie, c'est pas toujours aussi rose. Les travailleurs du soin et de l'accompagnement sont témoins de ça. Ils sont témoins de ce qu'est la vie dans sa vulnérabilité, quelquefois très atteinte pour des personnes que nous avons. Mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la vérité de la vie dans ces métiers-là, et je pense que c'est une chose qu'il faut souligner, même si c'est pas toujours très reconnu. C'est-à-dire que ces travailleurs ont du mal à le verbaliser ou à le faire partager. La deuxième chose, et je l'illustre comme ça, c'est qu'on peut faire des parcours magnifiques. On a à la Fondation John Bost une personne qui est aujourd'hui cadre de santé, donc qui encadre des équipes et qui a commencé comme service civique. Il est venu comme volontaire à la Fondation il y a fort longtemps. Il a adoré une année de présence. Il a décidé derrière de se former comme aide-soignant, puis ensuite comme infirmier et puis ensuite comme cadre. Et donc, ça fait 25-30 ans qu'il évolue au sein de la Fondation John Bost parce qu'il y a trouvé son bonheur. Et donc, c'est un parcours de vie qui est magnifique, quoi. Voilà. Ça, c'est ce qu'on essaie d'offrir à tous ceux qui veulent rester à la Fondation John Bost.
Alors, en conclusion, vous faites partie de la Fédération protestante de France.
Oui.
Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous apportez?
Alors, évidemment, à la Fondation, notre métier, c'est vraiment, on peut dire, on est dans le champ de la diaconie. On prend soin des plus petits, des plus...
Ouais.
Et des plus fragiles, et donc on apporte à la Fédération protestante une expertise dans le champ du handicap auprès de ces plus petits, et ça vient compléter évidemment le rayonnement des églises. Voilà, c'est sur le versant social et diaconal qu'on apporte une compétence. Moi, j'attends évidemment de la Fédération protestante non seulement une reconnaissance de ce lieu-là avec toutes les autres œuvres, hein, comme un lieu de rayonnement de l'Évangile, c'est-à-dire que je crois qu'à notre manière, on fait rayonner l'Évangile, et puis un soutien et éventuellement une caisse de résonance quand on a des sujets qui viennent nous heurter dans notre métier, ou justement quand on a des plaidoyers à faire porter auprès des autorités de ce pays. Je pense que la Fédération peut nous appuyer, c'est le rôle aussi du président de la Fédération. Donc on peut apporter auprès du président ou du conseil de la Fédération des sujets sur lesquels on est préoccupé, et pour lesquels la Fédération peut être une caisse de résonance. Voilà, c'est un peu ça que je peux attendre de la Fédération. Puis, le dernier point, alors c'est très banal de le dire, mais ce qui est très intéressant aussi à la Fédération, c'est ce lien avec d'autres œuvres. C'est un lieu de rencontre où on peut s'enrichir des autres. Voilà, ouais, ça, c'est précieux pour nous.
Bien, merci beaucoup, Guillaume de Clermont, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de la Fondation John Bost et qu'on peut trouver plus d'informations sur votre site internet John Bost, donc J-O-H-N-B-O-S-T attaché.org. Je dis merci à nos auditeurs, merci à Benjamin Bories et à son équipe pour l'aide à la production, et à bientôt pour découvrir une nouvelle facette de Protestants au pluriel. Au revoir.
Protestants au pluriel, des convictions qui dialoguent, un engagement qui résonne.